Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Ticia Esbanti, pasteur de l'Église protestante unie de Nîmes, paroisse Masse des Abeilles, Nîmes-Ouest. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu. Données. Pour toujours. Sans reprise. Aucune condition. Pas de petite phrase écrite en bas du contrat. La grâce de Dieu n'est pas négociable. Sa paix est imprenable. Et tu es, ils sont, nous sommes, toutes et tous, sans condition, les destinataires de cette grâce et de cette paix, aujourd'hui et à jamais. Amen. Ce matin, nous venons te louer, en ces premiers jours de l'année 2024. Oui, Seigneur mon Dieu, tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec 358 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils. J'y mettrai le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves. J'y mettrai le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, et puis le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où tu seras absent. Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Je te demanderai simplement, Seigneur, d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit de vie. Ainsi, par transparence, les personnes que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Thank you.
et je vous invite à la prière. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre tout ce qui n'a pas été vécu dans ta clarté. Ces coins sombres de notre vie qui n'ont pas été visités par ta lumière. Ces écrans que nous mettons entre notre passé et ton pardon, entre notre présent et ton appel, entre notre avenir et ton espérance. Pardonne-nous, car nous sommes oublieux de tes bénédictions, boiteux dans notre foi, peureux dans nos décisions. Et nous te remettons notre orgueil, à moins que ce ne soit nos craintes qui nous cachent ta lumière et qui nous empêchent de te faire pleinement confiance. Seigneur, nous voulons nous confier en toi, parce que tu es lumière, celle qui éclaire notre chemin. Amen. Noël est déjà derrière nous. Nous sommes le 7 janvier 2024 après Jésus-Christ. Ambiance de lendemain de fête, de reprise, de rentrée. Exit les guirlandes, sapins, papiers, cadeaux, santons, crèches. Tout a été rangé ? Pas tout à fait. Un petit groupe d'irréductibles résiste encore à ceux qui veulent les remettre en boîte. On leur a donné des noms, Gaspard, Melchior et Balthazar. On ne sait pas d'où viennent ces noms, mais on les a donnés. Ce trio a une espérance de vie un peu plus longue que les autres. Grâce à qui ? Aux boulangers. Les boulangers qui leur doivent d'ailleurs beaucoup. Je veux parler de la galette des rois, que tout le monde connaît. Mais retournons aux sources bibliques. Que nous connaissons peut-être moins. Ces sources qui les ont fait apparaître. Et on découvrira alors qu'ils n'étaient ni roi, ni trois. Écoutez ce récit biblique. C'est dans Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 11. Après la naissance de Jésus à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était le roi, des mages arrivèrent d'Orient. Ils vinrent à Jérusalem et ils demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Car nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Lorsque le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé et toute la ville de Jérusalem. Il réunit tous les grands prêtres et les spécialistes des Écritures et il leur demanda où le Christ devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, parce que voici ce que le prophète a dit. Il a dit « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors le roi Hérode convoqua secrètement les mages et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem et il leur dit « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir écouté le roi, les mages partirent. Et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Quand elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. En la voyant là, les mages furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec sa mère, Marie. Ils tombèrent à genoux pour se prosterner devant l'enfant. Puis ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et puis, comme ils furent avertis dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode, ils prirent un autre chemin pour rentrer dans leur pays. Le récit des mages est connu, archi connu. Mais comme souvent, quand on a trop entendu les histoires, on ne se pose plus de questions. On connaît le début et la fin. Les chemins sont tout tracés. Les mages font partie du paysage. On les aime bien d'ailleurs. Immobiles surtout, et fort sages. Ce qu'ils sont, surtout quand ils sont cuits dans la pâte de la galette des rois. Et pourtant, je ne sais pas si on les aimerait autant que ça, s'ils étaient venus aujourd'hui. Je ne sais pas non plus si on les aurait accueillis chez nous, comme on dit. Trois choses, dans ce récit, ont retenu mon attention. Premièrement, ces mages qui arrivent à Bethléem pour adorer l'enfant Jésus viennent de l'Orient, au-delà de Babylone. Et la plupart des historiens, des archéologues, s'accordent à dire qu'ils sont de culture perse. Ce qui veut dire que c'est la région qu'on appelle aujourd'hui l'Iran. Les mages viennent de l'Iran. Ça alors, ce ne sont pas des gens bien de chez nous qui viennent adorer le Christ, ce sont des étrangers. Des étrangers. Ça, c'est la première chose qui me frappe. La deuxième, c'est que les dictionnaires bibliques nous expliquent que les mages étaient des prêtres et qu'ils croyaient dans des divinités perses. D'autres dieux, quoi. Alors, ça n'avait rien à voir avec le judaïsme de Jésus. Et il y a donc des gens qui avaient une toute autre religion et qui reconnaissent Jésus comme étant le Christ, et qui sont prêts à parcourir des kilomètres pour tout ça. Je ne sais pas si avec un tel profil aujourd'hui, on leur aurait donné un visa pour leur séjour à Bethléem, ou bien si on les aurait reconduits à la frontière. De plus, malgré la tradition racontée à leur sujet, je vous l'ai dit, ce ne sont même pas des rois. Ils n'auraient donc bénéficié d'aucune mesure de protection particulière. C'était des gens comme tout le monde. Bref, quand on y pense, on se dit que rien que le tout premier verset de ce récit est plein de sous-entendus. Je vous le relis, ce premier verset. Voici que des mages, venus d'Orient, arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs ?» La troisième chose qui retient mon attention, c'est que ces mages arrivent à Jésus par un chemin incroyablement détourné. En effet, ils n'y arrivent pas simplement en suivant une étoile, comme on le raconte dans les livres d'enfants. En fait, l'étoile, elle ne les a pas conduits jusqu'à Jésus. La vérité, c'est qu'à un moment donné, les mages ne savent plus où aller. Voyez donc, ils atterrissent à Jérusalem, ils pensent que c'est là, et en fait, ils ne savent plus. Ils doivent demander leur chemin aux prêtres de la ville, et ce sont ces derniers qui leur indiqueront l'endroit. Il y a d'autres étrangetés dans la démarche de ces mages. La première, c'est que, bizarre, la première ou la troisième ou la quatrième, en fait, il y a beaucoup d'étrangetés. Une d'elles, c'est qu'ils étaient astrologues. Or, dans la Bible, eh bien, l'astrologie, c'est très mal vu. C'est considéré comme une idolâtrie, pour ne pas dire que c'est une abomination aux yeux de Dieu, selon les auteurs de la Bible. C'est pas bien de croire en l'astrologie. Il est donc curieux que les premiers qui vont découvrir le Christ étaient des astrologues. En fait, c'était des hérétiques aux yeux du peuple juif. Eh bien, dis donc, c'est bien troublant tout ça. Mais on peut s'interroger sur ce récit biblique. Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu hérétique pour bien s'approcher du Christ? Au fond, ce ne serait pas si étonnant du point de vue de l'Évangile, parce que Jésus dira, il dira souvent que les pécheurs et les prostituées sont plus proches du royaume de Dieu que les pharisiens professionnels des bonnes œuvres et de la bonne doctrine. Cela dit, ça ne veut pas dire que l'hérésie est une valeur en soi. Mais ce qu'il a de positif, l'hérésie, c'est qu'elle les amène, les mages, à se mettre en mouvement, à cheminer et finalement à trouver le Christ. Il y a sans doute deux catégories de gens qui ne peuvent rien trouver. Les sceptiques, qui pensent que de toute façon il n'y a rien à trouver, et les dogmatiques, qui sont trop sûrs d'eux-mêmes et qui pensent déjà avoir tout trouvé. Alors que l'hérétique, lui, a des chances de pouvoir avancer. Il désire quelque chose d'autre, de l'inattendu. Alors pour accueillir le plan de Dieu, il faut peut-être être prêt à sortir du chemin qu'on s'était planifié. En fait, on pourrait dire qu'il faut apprendre, qu'il faut savoir se perdre. Parce que le chemin n'est pas linéaire, il est sinueux. Comme dit un proverbe de la tradition rabbinique, « Surtout ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu risquerais de ne pas pouvoir te perdre. » Il faut pouvoir se perdre. C'est peut-être vrai aussi pour notre propre vie. En tout cas, les mages, eux, ils seront prêts à trouver Jésus ailleurs que là où ils pensaient que ça devait être. Parce que il ne sera pas dans la ville royale de Jérusalem. Il sera à Bethléem, petite bourgade provinciale. Bethléem, c'est quoi par rapport à Jérusalem? C'est le bled. C'est rien du tout. Ils découvriront cela. Ils découvriront que le Christ ne sera pas à trouver dans un palais, mais dans une crèche, dans la paille. Les mages sont donc prêts à se laisser déranger dans leur certitude de départ, leur conception des choses, leurs habitudes, les enseignements qu'ils ont pu recevoir. Ils vont chercher ailleurs, loin des sentiers battus. Peut-être faut-il, comme eux, avoir le courage de tâtonner, de se perdre aussi, de ne pas arriver du premier coup et de continuer notre quête. Avoir le courage d'avancer sans aucune certitude, de marcher à tâtons dans la nuit, avec, si tout de même une certitude, une seule, c'est qu'il y a bel et bien quelque chose à trouver au cœur de la nuit. La question n'est donc pas, pour trouver la vérité, de rester dans un chemin balisé, mais au contraire, de flâner, je dirais même de zigzaguer. On pourrait résumer les étrangetés que nous avons trouvées dans ce texte. Voici, les mages vont trouver le Christ en passant par une pratique idolâtre, hérétique, puisqu'ils sont astrologues au départ. Et puis, ils vont trouver le Christ en passant par une panne technique, en quelque sorte, puisque l'étoile, qui était leur GPS, sera à l'arrêt lorsque les mages se retrouvent à Jérusalem et qu'ils ne savent plus où aller. Ils font le tour du rond-point, ils tournent en rond. On constate donc que être déboussolé, ça peut être profitable. Ça peut servir à quelque chose. Dernière étrangeté ou bizarrerie que je relève dans cette histoire et que je veux partager avec vous, c'est que les mages viennent de l'Orient. C'est ce qu'on nous dit. L'Orient. Ce mot a un rapport avec le lever du soleil. Il a donné aussi le terme orienté, qui signifie littéralement se tourner vers l'Orient, autrement dit vers l'Est, vers le soleil qui se lève. Et la plupart des anciennes églises sont tournées vers l'Est. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans notre histoire? On dirait que les mages font tout à l'envers. Ils viennent de l'Orient. Par conséquent, ils tournent le dos à l'Orient, puisqu'ils le quittent. Ils tournent le dos à la lumière. Pour le dire autrement, ils se désorientent. Alors peut-être que le message, c'est qu'il faut savoir chercher là où on ne l'attendait pas. Chercher ailleurs que dans l'évidence et la logique. Parce que la lumière, tout le monde la cherche. Tout le monde la veut, la lumière. Les gens se tournent vers ce qui brille, vers l'or, vers ce qui offre de l'éclat. C'est bien normal. Eh bien, les mages, eux, vont tourner le dos à la lumière et ils vont chercher dans l'ombre. Alors peut-être faut-il savoir, nous aussi, chercher l'ombre pour trouver la vraie lumière. Peut-être faut-il aller vers le silence pour entendre une parole authentique. Peut-être faut-il savoir aller parfois à contresens. Au final, les mages auront le courage de faire autrement que tout le monde. Ainsi, quand ils trouveront le Christ, au lieu de demander, ils donneront. Ils feront tout ce chemin sans rien réclamer, juste pour adorer l'enfant Jésus. Non pas pour lui demander quelque chose, non pas pour profiter, juste pour offrir, pour donner, pour connaître l'essentiel. Et quand le roi Hérode leur ordonnera de revenir au palais pour l'informer où se trouve l'enfant, les mages, que font-ils ? Ils vont lui désobéir. Ainsi, Jésus aura la vie sauve grâce à une désobéissance, grâce à une résistance, une insoumission. Alors, quelles que soient nos erreurs, nos balbutiements dans notre vie, même si nous pouvons parfois être désorientés, dépoussolés, tomber en panne, ne plus savoir où aller, sachons que l'essentiel, c'est de chercher toujours et encore. C'est de se mettre en route. C'est ce désir-là qui compte. Alors, à l'instar des mages, que notre seule finalité, ce soit le don, la générosité et l'amour. Hors de cela, il n'y a pas de vie, pas de lumière, pas de chemin. Amen. Nous allons maintenant confesser notre foi chrétienne et c'est Martha de Norvège qui nous accompagne dans cette confession de foi. Nous l'écoutons.
Seigneur, nous croyons que tu t'es donné pour toute l'humanité, pour ceux qui ont vécu depuis les origines de l'histoire, pour ceux qui naîtront à la fin du siècle, pour les foules qui se pressent dans les villes, pour les habitants de la montagne la plus reculée, pour le bébé qui vient de naître et pour le vieillard sur le seuil de l'éternité. Nous croyons que tu t'es donné pour nos amis et nos ennemis, pour les croyants et les sans-croyants, les pauvres et les riches, les sages et les fous. Oui, pour tous. Pour lui, pour elle, pour moi, tu es venu. Et rien ne pourra nous séparer de ton amour, manifesté en Jésus-Christ. Amen.
Nous entrons dans la prière. Seigneur, tu as dit un jour si quelqu'un marche avec moi, il n'avancera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ce qui se passera pour les mages. Avertis en songe par les projets de mort du roi Hérode, ils repartiront chez eux par un autre chemin, et une nouvelle lumière éclairera leur nuit sur leur chemin du retour. Et nous, les rois Hérode d'aujourd'hui ne manquent pas. Ils sont nombreux. Combien de peuples, d'ailleurs, sont menacés, chassés, éliminés? Alors en ce dimanche, nous te présentons les nombreuses nuits qui planent dans ce monde. Gaza, l'Ukraine, l'Afghanistan, la Corée du Nord, le Soudan, les couloirs de la mort au Texas, les otages israéliens, les prisons surpeuplées, les cités sans avenir, les nuits froides de tous les sans-abri. Nous te remettons tout cela. Comme tu l'as fait pour les mages, ouvre nos yeux pour que nous prenions d'autres chemins que ceux de la destruction et du rejet. Réveille notre foi et notre espérance, Seigneur, face à un monde qui déraille, qui méprise la justice et qui anéantit les désirs de paix et qui asphyxie les poumons de la planète. Viens te révéler au cœur de nos vies et veuille élargir nos cœurs à la dimension du tien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et non la nôtre. Amen. Et je vous invite maintenant à écouter la prière du Notre Père en araméen. C'était la langue que Jésus parlait avec les gens de son temps.
Mal gut, doch ne, wie
en guise de parole d'envoi, je vous invite à écouter ce message qui avait été prononcé par Nelson Mandela en Afrique du Sud. Voici ce qu'il avait dit. Notre peur la plus profonde, ce n'est pas d'être nul ou incapable, mais c'est notre lumière. Ce n'est pas notre ombre qui nous effraie le plus, c'est notre lumière. Pourquoi ne serions-nous pas brillants, bons, capables pour Dieu? Il n'y a rien de saint ou d'illuminé à se rétrécir, à se diminuer, à se cacher, pour ne pas déranger son entourage. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas limité à certains, c'est en nous tous. Quand nous laissons briller notre lumière, les autres ressentent inconsciemment la liberté de faire de même. Et quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence aimante libère celle des autres. Je vous invite à recevoir la bénédiction maintenant. Que l'amour de Dieu qui dépasse toute intelligence humaine garde nos cœurs et nos pensées tout au long de notre vie. La lumière est venue. Rien ni personne ne pourra jamais l'éteindre. Cette lumière est celle du Christ et elle est donnée pour chacun de nous en cadeau. Nous pouvons nous confier et confier toute notre vie et confier notre route. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par Ticia S. Banti, pasteur de l'Église protestante unie de Nîmes, paroisse du Mas des Abeilles, Nîmes-Ouest. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.